Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio de retour. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas eu à mon micro. Vous êtes députée La France Insoumise du Nord. Je voudrais qu'on commence par parler de l'Ukraine, ce débat et ce vote hier à l'Assemblée. À propos de l'aide à l'Ukraine, qui a dit « Nous, on a des lignes rouges qui nous empêchent de voter pour. » La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, la question de l'adhésion à l'OTAN et l'envoi de troupes au sol.
J'ai pas très envie de jouer, moi, Apolline de Malherbe, ce matin. Non. Mais allez-y, répondez, si vous le souhaitez.
Non, parce qu'en fait, cette phrase, elle est mot pour mot, la même que quand on a été appelé à se prononcer sur un texte et que ce texte contient des questions aussi importantes que l'adhésion à l'Ukraine, l'adhésion à l'Union européenne ou l'adhésion à l'OTAN, ce sont des lignes rouges pour nous qui nous imposent de voter non. L'une des phrases, c'est Sébastien Chenu, l'autre, c'est Manuel Bompard. Mais franchement, on aurait pu mélanger, c'est exactement la même chose.
Ok, bon.
Vous avez les mêmes lignes rouges. Vous avez voté pareil.
Pauline de Malherbe, le débat qui avait lieu hier à l'Assemblée nationale, si on le situe en pensant que c'était un débat où la question posée était pour ou contre le soutien à l'Ukraine, alors on ne concourt pas à faire que celles et ceux qui nous écoutent ce matin comprennent mieux le cadre de ce débat. Le débat hier n'était pas un débat pour ou contre l'aide à l'Ukraine. L'aide à l'Ukraine est acquise. Elle est unanime dans toute la classe politique pour la raison que depuis 2 ans, l'Ukraine vit une agression en rupture avec le droit international, inacceptable de la part de la Russie. On peut commencer par ce point-là, si vous le voulez bien. Ensuite, j'en pose un deuxième.
Donc ça, l'aide, oui.
Mais évidemment,
quand on vous demande, acceptez-vous les 3 milliards ?
Alors, on va y venir. Il n'y a pas que les 3 milliards.
Votez non.
Il n'y a pas que 3 milliards. On va essayer de faire œuvre de pédagogie, si vous le voulez bien. Parce que depuis hier, on enferme le débat dans
le pour ou contre. Le temps.
Voilà. Première chose. La deuxième chose, c'est que il y a en effet un certain nombre de lignes rouges et ce que nous avions à voter hier, ça n'était pas l'accord qui, de toute façon, vous le savez, a été signé le 16 février, conclu entre M. Macron et M. Zelensky. Hier,
Et on va d'ailleurs préciser que le vote était assez symbolique. Il se trouve que ce vote a approuvé cet accord,
exactement,
de manière a posteriori.
Exactement.
Mais que si toutefois le vote avait été défavorable, l'accord aurait tout de même eu lieu.
Merci de
le
préciser.
Décor est posé,
ensuite, il y a autre chose, c'est que on entend que tous ceux qui auraient voté contre seraient des poutinolâtres. Alors, je ne sais pas si M. Macron irait dire que le pape François est un poutinolâtre, puisque le pape François a répondu en quelque sorte à la question qui était posée hier. La question posée hier à l'Assemblée nationale, c'était face à la situation que nous avons en Ukraine et à l'invasion russe, est-ce qu'on est pour la guerre ou est-ce qu'on est pour la diplomatie ? Au passage, je me permets de dire que vous avez devant vous quelqu'un qui représente une formation politique, la France Insoumise, dont les amis politiques en Russie, pour la plupart d'entre eux, sont en prison face au régime de Vladimir Poutine, et la seule formation politique qui, en France, la France Insoumise, accueille et a organisé l'hébergement d'opposants au régime de Vladimir Poutine qui, sur le territoire russe, sont menacés, comme l'a été, par exemple, M. Navalny. Voilà pour juste. Alors que le Rassemblement National, lui, soit gêné aux entournures parce que ses liens avec la Russie de Vladimir Poutine sont matériels et établis.
Au final, ils votent comme vous. C'est-à-dire, ces deux phrases.
Non, on n'a pas voté pareil hier à l'Assemblée nationale.
Ils n'ont pas été jusqu'à voter contre.
D'ailleurs, je me permets de dire, je ne comprends pas bien l'explication de Marine Le Pen, puisqu'à la fin de son explication, elle dit en soutien à l'Ukraine, nous allons donc nous abstenir. Mais c'est donc qu'elle considère que cet accord n'est pas un bon accord pour l'Ukraine, et dans ce cas, il fallait voter contre. C'est notre avis. Pourquoi ? Apolline de Malherbe, le risque qu'il y a sur place, c'est un risque de guerre généralisée. Et nous n'avons pas vu dans le discours de Gabriel Attal, si vous en avez vu, dites-le-moi, de place pour une issue diplomatique.
C'est quoi l'issue diplomatique, Adrien Quatennens ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi ? Si vous faites asseoir autour d'une même table Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, pensez-vous qu'ils puissent trouver un accord ? Sauf à dire que l'annexion des territoires déjà pris par la Russie doit être acceptée.
Vous le savez comme moi, de toute façon, tôt ou tard, c'est à ça qu'on viendra. C'est une évidence.
En fait, vous dites, de toute façon, ils ont perdu ces morceaux-là de l'Ukraine, et il faut se rendre à l'évidence.
C'est que l'issue ne peut être que la négociation. D'ailleurs, regardez un peu sur la scène internationale.
Mais pensez-vous que Vladimir Poutine accepte de négocier ?
Mais il va le falloir. De toute façon, il va le falloir. Mais surtout, regardez. Est-ce que l'opération de M. Macron et M. Attal est un succès sur la scène internationale ? Vous savez, Apolline de Malherbe, la France, sur la scène internationale, doit être un facteur d'ordre, de paix et de droit. Or là, nous avons M. Macron, M. Attal, qui se sont pris un court instant pour les champions de l'ambiguïté stratégique et qui finalement ont abattu toutes leurs cartes sur la table et sont surtout les pieds nickelés de la géopolitique. Voilà ce qu'il faut dire. C'est qu'en réalité, vous avez tous les alliés de la France, des États-Unis, à même leurs alliés en Europe, c'est le cas de l'Allemagne par exemple, qui sont allés à rebours des déclarations va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron.
Mais est-ce qu'on négocie avec quelqu'un qui dit, et là je cite Dimitri Medvedev, qui est quand même l'ancien président russe, l'ancien premier ministre, désormais vice-président du Conseil de sécurité de Russie, qui dit à propos d'Emmanuel Macron, hein, Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons. J'ai déjà lu ici, et ça m'est assez immonde de le lire à nouveau. Ça sentira très fort. J'ai écrit cela ce matin, je n'ai même pas eu le temps de le publier. Et le soir, il s'était déjà chié dessus, pauvre France. Mais est-ce qu'on négocie avec des gens comme ça ?
Non, mais on doit négocier avec nos ennemis. Et en l'occurrence, la manière dont ils se comportent est absolument inacceptable. Et pour autant, nous allons voir aller à la négociation. Et la question qui est posée, il n'y a pas d'alternative en réalité. Sinon, laquelle, Apolline de Malherbe ? Il faut le dire. À ce moment-là, dites aux gens que le but, c'est d'aller jusqu'à Moscou et de faire la guerre généralisée et que la France entre en guerre avec la Russie. Et ça n'est pas imaginable.
Est-ce que la guerre, elle n'est pas déjà ici ? C'est-à-dire que... On a quand même l'impression que vous faites semblant de ne pas avoir entendu le message. Évidemment, il y a eu cette phrase, et d'ailleurs, les proches d'Emmanuel Macron eux-mêmes reconnaissent à demi-mot que c'était au minimum maladroit d'avoir dit les troupes au sol. Et depuis, ils ont dit non, mais ils ne voulaient pas vraiment dire troupes, enfin, en tout cas, pas soldats. Ouais, ils voulaient dire éventuellement.
Bon, c'est plus que maladroit.
On est bien d'accord. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'Adrien Quatennens, vous continuez à dire comme si on allait envoyer des troupes depuis. Et Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, d'ailleurs, lui-même sur cette antenne, a dit qu'il n'en était évidemment pas question.
Ah ben, vous avez lu le texte de l'accord ? Le texte de l'accord prévoit, en effet, comme le dit Emmanuel Macron, aucune limite et des fournitures qui sont non exhaustives. Ça veut dire qu'on se laisse le droit à absolument tout. Encore une fois, entendez-moi, il faut que cette guerre cesse et personne ne peut accepter l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est inacceptable. Mais dans cet accord, puisqu'on parlait de l'accord, qu'en réalité nous ne votions pas...
Mais si on négocie, on accepte de fait cette situation d'envahissement, non ?
Mais elle est là, cette situation. De fait, elle est là. Aujourd'hui, il y a un front de 900 km.
Donc vous appelez les Ukrainiens à accepter
au fond négocier. Et d'ailleurs, je crois que la France...
De se séparer d'une partie de leur territoire.
Non, mais il faudra négocier. Il y a un conflit, il faut négocier. Vous avez regardé le contenu de l'accord. Bon, il y a les 3 milliards d'aide à l'Ukraine. Il y a évidemment une question qui, pour nous, est une ligne rouge. D'abord, notez que c'est assez insolite. Je crois que c'est la première fois que la France signe un accord de coopération militaire avec un pays qui est déjà en guerre. C'est assez inédit sur la scène internationale. Mais qui plus est, cet accord prévoit et organise le fait que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne. Pour des raisons qui d'ailleurs n'ont pas trait exclusivement à la situation entre la Russie et l'Ukraine, nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons à la France insoumise
que... Il ne faut pas élargir tout court l'Union européenne,
que l'élargissement de l'Union européenne, à tout le moins, ne peut se faire que s'il y a l'harmonisation sociale et fiscale qu'aujourd'hui les traités empêchent. Imaginez ce que serait, alors que déjà aujourd'hui on a abaissé les droits de douane, imaginez ce que ce serait demain, l'adhésion de l'Ukraine
celui
à l'Union européenne.
Celui qui jusqu'alors était votre partenaire, qui l'a été en tout cas par le passé, Raphaël Glucksmann, qui mène désormais la liste socialiste pour les européennes, en fait l'un de ses principaux arguments de campagne, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Ça ne serait absolument pas facteur de paix, y compris parce qu'il y a ce conflit, pas plus que ce ne le serait si l'Ukraine adhérait à l'OTAN. D'ailleurs, au passage, vous me permettez de vous dire ceci. Vous connaissez
êtes
ce document
avec un fascicule.
Est-ce que vous connaissez
le programme partagé de gouvernement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale? C'est le programme de la NUPES.
Tout à fait. Ça date d'il y a moins de 2 ans. C'était signé par toutes les formations politiques, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération, le Parti Socialiste, le PCF. Et là-dedans, il y a plus de 30 pages, Apolline de Malherbe, consacrées à l'Union européenne. 30 pages que le Parti Socialiste
avait donc signé
et sur lesquelles il s'était engagé devant ses électeurs. Et aujourd'hui, ils choisissent de mettre en tête de liste, de leur liste aux élections européennes, quelqu'un qui ne cesse de dire qu'il est en désaccord avec le programme que le Parti Socialiste a voté et sur lequel il s'est engagé il y a 2 ans. Je vais vous dire franchement, Apolline de Malherbe, à l'heure où on voit bien ce qui se passe sur ces élections européennes. On voit bien le fond de l'air. D'ailleurs, on voit le fond de l'air partout en Europe. Bah, regardez ce qui se passe en Pologne, regardez ce qui se passe en Allemagne, où l'extrême droite revient en Allemagne. Regardez ce qui se passe au Portugal avec les élections récentes. Et on a en France un tableau où on voit bien que l'extrême droite, on lui déroule le tapis rouge et elle avance. Et pendant ce temps, nos partenaires d'il y a 2 ans, qui étaient prêts à tout pour avoir des élus à l'Assemblée nationale, choisissent de faire en sorte que la gauche, qui, dans les sondages, pèse toujours autour de 30%, et serait donc, si elle était rassemblée autour de ce programme, en capacité de challenger l'extrême droite, ils nous contraignent, et nos électeurs avec, un nouveau match des gauches que.
Sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, ils ne sont plus d'accord et sur des aspects assez fondamentaux
en tout cas,
comme la question de l'Ukraine.
Puisque maintenant, cette question-là va se trancher au moment des élections européennes. Et d'ailleurs, je le dis à celles et ceux qui sont derrière leur radio, derrière leur télé ce matin, si vous avez voté Jean-Luc Mélenchon en 2022, vous étiez 8 millions à le faire, je vous invite le 9 juin prochain à voter pour la liste qui sera conduite par Manon Aubry de la France Insoumise. De même que si vous avez été en juin 2022 électeur de la NUPES aux élections législatives, donc de l'une de ses composantes, votez pour cette liste qui est la seule qui sera fidèle à l'esprit au programme de la NUPES.
Ce programme que vous aviez signé.
Sanctionner celles et ceux qui ont pris l'irresponsabilité de rompre la NUPES dans un moment où l'extrême droite caracole en tête des sondages.
Adrien Quatennens, je voudrais que vous regardiez ces images, que vous les écoutiez pour ceux qui sont à la radio. Ça s'est passé hier au sein de l'école emblématique Sciences Po, Institut d'études politiques de Paris, l'amphithéâtre principal, rebaptisé pour l'occasion amphithéâtre Gaza, qui était donc occupé par des militants pro-Palestine qui ont, d'après des étudiants juifs, membres de l'UEJF, interdit l'entrée d'étudiants juifs. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, je me félicite que les étudiants se saisissent de cette question et se mobilisent pour soutenir Gaza. En revanche, évidemment, tout propos, tout acte discriminant, antisémite, est à proscrire. Je rappelle que l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais permettez-moi, puisque vous évoquez cette situation, de dire que, y compris quand on fait le parallèle avec le débat d'hier, il y a un double standard français qui n'est pas acceptable. Les mêmes qui revendiquent à juste raison le droit international pour les Ukrainiens sont très timides s'agissant du droit international pour les Palestiniens. Les mêmes qui revendiquent des sanctions à juste raison contre Vladimir Poutine sont très timides quand il s'agit d'en demander contre M. Netanyahou.
Mais là, en l'occurrence, ce sont des étudiants en France, sur le sol français, avec des propos des étudiants juifs qui disent se sentir menacés, qui disent que parfois, lorsqu'ils s'assoient dans l'amphithéâtre, on se déplace pour ne pas être assis à côté d'eux. Des étudiants juifs qui disent qu'on refuse de faire des exposés avec eux au prétexte qu'ils sont juifs.
Eh bien, cela est inacceptable et ne doit absolument pas être confondu ou amalgamé avec le soutien de la cause palestinienne. Je pense qu'il est temps, je vais y contribuer ce matin, si vous me permettez, de remettre un peu d'ordre dans le débat. Parce que, y compris quand j'ai entendu récemment M. Dupond-Moretti sur une chaîne concurrente, quand j'entends que dès que l'on soutient finalement la cause palestinienne, on pourrait être taxé d'antisémitisme. Je veux le dire avec force ce matin.
Mais moi, je vous dis pas ça, je vous donne des faits, et ça s'est passé hier, et c'est dans un lieu très précis, et ce sont des récits très précis, et des témoignages très précis.
C'est très heureux, et j'encourage la mobilisation étudiante en soutien à Gaza. En revanche, dans cette mobilisation, il ne peut pas, et personne ne peut être
d'accord. Est-ce que vous leur demandez, ce matin, est-ce que vous leur dites, si vous vous mobilisez, dialoguer, accepter le dialogue, accepter que des étudiants qui ne sont pas d'accord avec vous puissent venir débattre?
Ça me paraît être une évidence.
Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a deux questions qui se sont posées hier, c'est la question de l'identité des uns, mais c'est aussi la question de leur opinion.
Il ne faudrait pas qu'on laisse entendre que toute mobilisation pro-palestinienne serait nécessairement suspectée d'antisémitisme. Et moi, ce matin, je veux le dire à votre micro avec force, on devrait pouvoir, dans ce pays, comme responsable politique, ou même comme étudiant, dire que les Palestiniens subissent depuis des années un régime d'apartheid sans être taxés d'antisémitisme. On devrait pouvoir dire, on devrait pouvoir dire qu'en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, les Palestiniens subissent la colonisation, subissent l'occupation. On devrait pouvoir dire qu'à Gaza, les Palestiniens depuis des années subissent un blocus illégal. On doit pouvoir dire que le gouvernement de M. Netanyahou est un gouvernement d'extrême droite suprémaciste et Apolline de Malherbe, je le dis avec force, on doit pouvoir dire tout ça sans être suspecté le moins du monde d'antisémitisme. Parce qu'Apolline de Malherbe, l'antisémitisme n'est pas dans les moyens d'un insoumis pour la raison que nous sommes contre le racisme, quelles qu'en soient ses formes, et que quiconque, juif, musulman, catholique, protestant, serait mis en cause en tant que personne pour ses convictions religieuses, nous trouverait, comme Jean-Luc Mélenchon l'a déjà dit,
et
immédiatement
vous vous opposez,
à ses côtés.
Et vous le dites ce matin, Adrien Quatennens, je précise d'ailleurs.
Il y a 31 000 morts à Gaza, ce sont les chiffres de l'ONU, pas ceux du Hamas, contrairement à ce qu'on dit. Et l'ONU a révélé hier qu'en 4 mois à Gaza, il y a eu plus d'enfants tués qu'en 4 ans de conflits internationaux à travers le monde entier. Je dis donc aussi à certains responsables politiques, par exemple M. Gérard Larcher, Mme Yaël Braun-Pivet, que peut-être il est temps d'organiser une grande manifestation nationale de soutien aux Palestiniens pour effacer le droit inconditionnel qui d'ailleurs n'existe pas en droit international.
Ça veut dire quoi ? Vous voulez dire par rapport à la manifestation qui a eu lieu et qui avait été organisé par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet.
Je pense qu'il serait bienvenu.
Mais c'était
maintenant
pas en soutien à Israël.
Ah ben, c'était une marche contre l'antisémitisme et évidemment qu'il fallait se rassembler contre l'antisémitisme.
En fait,
mais tout le monde a bien compris. Et d'ailleurs, sur place, souvenez-vous, ce jour-là, BFM, vous étiez sur le terrain.
Bien
vous
sûr.
Avez interrogé certaines des personnes qui participaient. Ils étaient là pour une marche contre l'antisémitisme et c'est une cause tout à fait noble.
Mais,
beaucoup d'entre eux ont tenu des propos anti-musulmans et beaucoup d'entre eux
je
ont
les ai
tenu.
Pas vu. Moi, j'y étais.
Et beaucoup d'entre eux,
pour BFM TV.
Exemple,
et vous
ce
savez
jour-là,
très bien,
un réalisateur
très bien,
bien connu que je vais
Adrien
me retenir Quatemins, de nommer, Apolline de Malherbe, a dit qu'il était là pour soutenir inconditionnellement Israël. Ce n'était pas le motif de la marche, normalement. Et de la même manière, je le dis à Emmanuel Macron, pas de double standard. Puisqu'il est capable de bomber le torse sur la question ukrainienne et qu'il croit que.
Mais il y avait besoin d'une
chose.
Marche contre l'antisémitisme ou pas?
Oui. Mais elle ne s'est pas faite dans les bonnes conditions, Apolline de Malherbe. Si par exemple.
Il y a toujours des petites astérix.
Non, il n'y a pas d'astérix.
Une petite astérix non. Avec oui, mais en fait.
Vous pensez que le fait que le Rassemblement National, dans son histoire, a été fondé par des Waffen-SS, vous croyez que c'est un détail de l'histoire, vous? Pas moi.
Pas du tout.
Et donc je ne supporte pas l'idée qu'on réhabilite ces gens-là.
Oui, mais par contre, voter pareil qu'eux hier, ça ne vous dérange pas du tout, quoi.
Mais enfin. Quel est votre métier, Apolline de Malherbe?
Ben, c'est journaliste.
Ben, je ne suis pas sûr, là, parce qu'hier, ils n'ont pas voté comme nous à l'Assemblée nationale.
Non. Ils ont voté. Ils se sont abstenus, vous avez voté contre.
Voilà.
Mais avec exactement les mêmes mots, je ne vais pas vous les redire ici, je les ai
vus. J'ai vu, on n'a pas joué
mots.
À votre jeu, mais ça
à
n'avait pas grand intérêt, vous le voyez
rouge.
Bien. Vous le voyez
si,
bien.
Justement.
Non, je ne crois pas. Je crois pas.
C'est quand ça vous arrange, quoi.
Non, c'est pas quand ça nous arrange. Nous n'avons pas de lien matériel avec Vladimir Poutine. Je vous l'ai dit, nos amis sont en prison en Russie. Donc arrêtez de faire des allégations qui, à mon avis, d'ailleurs, je le dis, ne font pas avancer le débat public, participent d'une grande confusion. Vous devriez essayer d'éclairer, pas de rendre les choses plus confuses.
Adrien Quatemins, je voudrais qu'on parle du rapport de la Cour des comptes, qui estime que, au-delà des milliards dont a parlé Bercy, qui disait d'abord qu'il fallait trouver 10 milliards aujourd'hui.
Attendez, juste une chose. J'ai oublié de dire une chose très importante. Parce que j'ai parlé d'une éventuelle marche de soutien pour la cause palestinienne. Je dis juste que, puisque la Cour de justice internationale a reconnu le risque génocidaire, cette décision oblige la France. Et donc, je voulais m'adresser, avant que vous m'interrompiez, excusez-moi, à Emmanuel Macron, pour dire, il est grand temps que la France reconnaisse l'État de Palestine, qu'elle arrête de livrer des armes, dont on voit bien qu'elle se retourne contre des enfants et des civils, et qu'enfin, elle prenne une place sur la scène géopolitique pour qu'il y ait un cessez-le-feu le plus rapide possible.
Il est important de préciser que je ne vous ai pas interrompu, vous avez été au bout, et vous-même, vous voulez rajouter ça, et si je vous ai questionné, c'était parce que vous mettiez en parallèle une manifestation qui était pour dénoncer des actes antisémites contre des juifs en France, avec une manifestation en soutien, simplement, les deux manifestations peuvent tout à fait exister, mais j'avais du mal à comprendre pourquoi l'une était en réponse de l'autre.
Je dis juste que ce serait une bonne idée. Voilà.
Adrien Quatemins, le rapport de la Cour des comptes, trouvé 25, voire 50 milliards, dit la Cour des comptes, qui envisage d'augmenter les impôts comme l'une des solutions, en disant que ça devrait être nécessaire. Il y a même Alain Minc, qui d'habitude est quand même le conseiller du CAC 40, qui dit qu'il faut d'urgence augmenter les impôts. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Cour des comptes et avec Alain Minc?
Bon, d'abord, première chose, le rapport de la Cour des comptes montre une chose, c'est que Bruno Le Maire nous a menti, à toutes et tous, et à la représentation nationale. Parce que il a tablé sur des prévisions de croissance dont tout le monde lui a dit à cette période que c'était surévalué, et en effet c'est le cas puisqu'il parlait d'1,4% de croissance, ça a été basé à ensuite ça a été descendu à 1 puis finalement c'est 0,7. Alors augmenter les impôts. Souvent, Bruno Le Maire dit il est hors de question d'augmenter les impôts. En fait, la vraie question qu'il faut poser, c'est pas les impôts. On a l'impression que tout le monde va être touché. C'est quels impôts on augmente et pour qui? Voilà la vérité. Et nous pensons en effet que les plus riches devraient contribuer à l'effort, surtout quand on voit la situation sociale dans ce pays. Vous savez qu'en France, notamment sous l'effet des politiques qui ont été menées par Emmanuel Macron, vous avez 5 personnes, 5 milliardaires, qui se partagent la même richesse que 27 millions de Français. Donc oui, nous pensons qu'il faudrait augmenter les impôts, mais ça dépend pour qui. Par exemple, nous proposons un système à 14 tranches d'impôts qui lisserait l'effort entre tous, qui ferait que pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont des ménages à moins de 4 000 euros, ils paieraient moins d'impôts. En revanche, oui, il faut rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Il faut avoir une taxe sur les super profits et ça c'est une urgence absolue en effet. Vous savez, Bruno Le Maire, il a dit la semaine dernière, la France est accro à la dépense publique. Et évidemment, ce qu'il cible en priorité, c'est la protection sociale, sont nos services publics qui, enfin, 50 milliards en deux ans, 46 milliards en deux ans. Ce sera une purge absolument incroyable. Mais il aurait pu dire, Bruno Le Maire, oui, la France est accro à la dépense publique. Par exemple, les très riches dans ce pays sont accros aux cadeaux fiscaux qu'ont fait Emmanuel Macron, Bruno Le Maire. Les grandes entreprises de ce pays, les grands groupes, sont accros aux aides publiques sans contrepartie. Et tout cela coûte un pognon de dingue, pour paraphraser Emmanuel Macron. Et je pense que, par exemple, on pourrait exiger des contreparties environnementales, sociales, aux aides publiques qui ont été fournies aux entreprises.
On apprend à l'instant, Adrien Quatennens, que le patron de Sciences Po, on parlait de Sciences Po à l'instant, démissionne. Il ne démissionne pas à propos de ce qui s'est passé hier, mais à propos des rapports avec son ex-compagne. Ils sont renvoyés tous les deux devant le tribunal correctionnel. Malgré tout, j'ai devant moi quelqu'un, et je n'avais pas vraiment prévu de revenir sur votre affaire, mais quand on voit en quelques semaines Julien Bayou, accusé de violence psychologique, qui se met en retrait de son parti, Ercilia Soudet, députée LFI, qui a dû porter plainte pour viol contre son ex-compagnon, Damien Cassé, lui-même militant de la France Insoumise, qui est suspendu par le parti. Quand on voit Gérard Miller avec 3 accusations de viol, 15 accusations d'agression sexuelle, est-ce qu'il y a un problème dans le rapport aux femmes à la NUPES ?
Je pense qu'il y a un problème dans le rapport aux femmes dans la société, Apolline de Malherbe. On le voit bien. Ça traverse toute la société en ce moment. Vous auriez pu même élargir ce que vous venez de dire. Permettez-moi d'avoir des mots de soutien envers ma collègue Ercilia Soudet et de dire que par ailleurs, le fait que contre sa volonté, les événements aient été rendus publics, ça n'est pas rendre service ni respecter la parole de la victime. Je sais pourquoi vous m'interrogez à cette heure. Alors certes, il y a un fait d'actualité. Je suis devant vous et je ne vais pas biaiser. Oui, j'ai été mis en cause moi-même, Apolline de Malherbe, au moment de mon divorce, sur un fait daté et sur la manière dont, finalement, j'ai réagi face à ce divorce. J'ai reconnu les faits, la justice est passée, et j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, y compris avec une association, puisque c'est le sens du stage que mon groupe m'a demandé de rencontrer. Je voudrais adresser un mot à toutes celles et ceux, et en l'occurrence, à ceux qui sont mis en cause. Si vous avez des choses à vous reprocher, dites-le. Je crois que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Vous savez, on conseille souvent en France, on dit quand vous êtes mis en cause, première année de droit en faculté, on vous apprend que quand vous êtes mis en cause, faut nier. Moi, d'abord, je me suis dit, je sais ce que j'ai à me reprocher en 13 ans de vie commune, et je pense que je peux dire, voilà, j'ai commis cette faute et travaillé sur le sujet. Mais je pense que pour qu'on avance, il faut porter ce message. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ces sujets aujourd'hui, mais c'est le message que je veux adresser.
Vous êtes peut-être le mieux placé pour parler à ceux justement qui seront mis en cause.
Oui. Et si c'est le cas, alors je leur dis, reconnaissez. Y compris parce que, si vous avez des choses à vous reprocher, reconnaissez. Y compris parce que c'est peut-être la première porte et le chemin le plus indispensable pour la réparation. La réparation pour les victimes, mais on le voit bien au vu de l'ampleur du sujet, la réparation pour toute la société.
Merci Adrien Quatennens d'être venu répondre à mes questions. Député
de
la France Insoumise du Nord, il est 8h54 sur AMC BFM TV.